Le journal Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. 80% des plaintes classées sans suite. C'est un rapport accablant que rend public aujourd'hui l'inspection générale de la justice à propos des violences conjugales en pointant de nombreux dysfonctionnements. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante, reconnaît la ministre de la Justice Nicole Belloubet, qui présentera dans quelques semaines une nouvelle proposition de loi. Le démenti du prince Andrew dans une interview sans précédent sur la BBC. Le deuxième fils de la reine d'Angleterre, mis en cause dans l'affaire Epstein, dit n'avoir aucun souvenir de la femme qu'il accuse de viol. Un acte 53 bis pour les gilets jaunes dont certains manifestent encore aujourd'hui, jour anniversaire du mouvement. Ils se sont réunis ce dimanche place du Châtelet à Paris. Dans ce journal également, la taxe GAFA votée au mois de juillet par la France est-elle une bonne idée? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h. On en parle avec notre invité, le directeur fiscal de l'OCDE. Et puis la meilleure équipe de rugby au monde sur la pelouse du Racing tout à l'heure. Mais les Saracens, qui sont champions d'Europe en titre, sont aussi menacés de disparition. Ce que nous expliquera Fanny Lechevestrier.
France Inter.
Quand la justice fait son mea culpa sur les féminicides, c'est la ministre Nicole Belloubet elle-même qui le dit au JDD. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante et elle s'appuie pour le dire sur un rapport de l'inspection générale de la justice mis en ligne aujourd'hui même et dont le journal révèle les grands enseignements. Le fait notamment qu'un signalement à la police ou à la gendarmerie ou même le dépôt d'une plainte n'ont pas toujours beaucoup d'effet. On va y revenir. C'est justement ce même problème qui est à l'origine du drame survenu, on s'en souvient, dimanche dernier en Alsace. Une femme de 40 ans tuée de plusieurs coups de couteau par son mari sous les yeux de sa fille, laquelle a mis en cause le temps de réaction des gendarmes appelés à l'aide. Elle organisait ce matin une marche blanche en mémoire de sa mère à Oberhofen-sur-Moder. Corinne Fugler.
Repose en paix, on t'oublie pas Sylvia, justice sera faite. Derrière cette banderole rose, les proches de Sylvia Hochter ont défilé ce matin de la mairie au lotissement où résidait cette quadragénaire. Une marche silencieuse, sans prise de parole, qui a rassemblé à la fois des amis et des inconnus. Voisins, collègues, militantes féministes, anonymes, tous portaient des vêtements roses, des écharpes, des bonnets et aussi des fleurs qu'ils ont déposé devant la grille de sa maison. « Brisons le silence », disait une pancarte laissée à côté des bouquets. Sylvia Hochter a perdu la vie il y a une semaine. Elle était à ce moment-là la 131e victime de féminicide recensée en France cette année.
La victime avait déposé une main courante et une plainte. Dans le rapport de l'inspection générale de la justice, rendu public donc ce dimanche, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 88 cas d'homicides conjugaux analysés pour les années 2015 et 2016, les deux tiers des victimes avaient déjà subi des violences antérieurement à l'homicide et 80% des plaintes avaient été classées sans suite. Charlotte Piret, le constat, terrible constat, n'est pas nouveau, mais il est maintenant documenté.
Le premier constat est aussi peu surprenant qu'inquiétant. La victime a très majoritairement déjà subi des violences avant d'en mourir. Or, l'entourage familial, amical mais aussi médical, ne joue pas suffisamment son rôle d'alerte. Il y a cette femme qui se rend elle-même 10 fois aux urgences, 4 fois la même année, avant de finalement succomber sous les coups de son compagnon. Cette autre femme, pour laquelle un certificat médical évoque une tentative d'étranglement, elle est tuée 3 mois après par son conjoint. Mais dans 41% des cas étudiés, ces femmes victimes ont aussi alerté les forces de l'ordre, main courante, plainte, parfois plusieurs, sans poursuite judiciaire à la clé, sans que les auteurs soient systématiquement auditionnés et l'entourage quasiment jamais entendu. Quant au dispositif judiciaire, l'ordonnance de protection par exemple, contrairement à l'Espagne, elle est très peu utilisée en France. Même chose pour les téléphones grave danger qui permettent aux femmes d'être géolocalisées en temps réel. Enfin, c'est encore le manque de transmission d'informations qui est pointé du doigt. Mieux communiquer entre police, gendarmerie et services judiciaires permettrait tout simplement de sauver des vies.
Face à cette situation, le rapport de l'IGS fait aussi des recommandations sur la protection des victimes et la réponse pénale qui devrait intervenir dès le premier signalement. Beaucoup de mesures qui sont déjà inscrites dans une proposition de loi qui devrait être adoptée dans les semaines qui viennent, en rappelant que le Grenelle des violences conjugales présentera ses conclusions le 25 novembre, au lendemain, au surlendemain d'une marche organisée à Paris par le collectif féministe Nous Toutes. C'est dans ce contexte des violences faites aux femmes femme qu'outre-Manche. Le prince Andrew lui-même a été mis en cause dans l'affaire Epstein. Le financier américain, accusé d'avoir organisé des séances de massage qui tournaient au viol, il avait été arrêté et inculpé en juillet dernier avant d'être retrouvé mort dans sa cellule à New York. Le prince Andrew, accusé par une femme d'avoir pris part à ces séances à deux reprises au moins, a répondu hier soir sur la BBC dans une interview d'une heure sans précédent filmée au palais de Buckingham. Le deuxième fils de la reine dit n'avoir aucun souvenir de celle qui l'accuse. Marina Daras à Londres.
Le duc de York a affirmé qu'il ne pouvait pas avoir eu de relations sexuelles avec une adolescente de 17 ans dans la maison londonienne de la compagne de Jeffrey Epstein pour une simple et bonne raison, il était à la maison avec ses enfants.
Cela n'a pas pu se produire parce que à cette date, le 10 mars, j'étais à la maison avec les enfants. J'étais avec les enfants, j'avais emmené Béatrice au Pizzeria Express de Woking pour une fête d'anniversaire à 16 ou 17 heures. Et puis, parce que la duchesse était absente et que nous avons une règle simple dans la famille, si l'un est absent, l'autre est là. Et comme à l'époque j'étais en arrêt de travail de la Royal Navy, j'étais donc à la maison.
Et lorsque la journaliste lui demande comment il peut se souvenir d'une soirée si banale, voilà sa réponse.
Aller au Pizza Express de Woking est une chose inhabituelle pour moi. Très inhabituel. Je ne suis allé à Woking qu'une ou deux fois dans ma vie et je m'en souviens très bien. Dès que quelqu'un me l'a rappelé, j'ai dit « Oh oui, c'est vrai, je m'en souviens ».
Le prince Andrew n'a exprimé que très peu d'excuses au cours de cette interview, ne serait-ce que pour son amitié avec Jeffrey Epstein, et les téléspectateurs ont été nombreux à le trouver arrogant et sans remords. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Voilà, c'est dans ce contexte aussi qu'en France est sorti mercredi le film J'accuse de Roman Polanski. On en parlait à l'instant dans Questions politiques. Un film qui semble-t-il connaît un grand succès malgré les accusations de viol portées contre le cinéaste. Hier soir à Rennes, il n'a pas pu être diffusé au TNB, le Théâtre National de Bretagne. Des militantes féministes sont venues perturber la séance en exigeant la déprogrammation du film. Ce que le directeur du TNB a d'ailleurs accepté pour les séances de ce dimanche uniquement, en expliquant sur son site que déprogrammer le film serait évacuer le débat et sa complexité. Le premier anniversaire des Gilets jaunes, c'était il y a un an, jour pour jour, le 17 novembre précisément, après la journée d'hier, marquée par l'occupation de nombreux ronds-points et quelques flambées de violence, notamment à Paris, place d'Italie. De nouveaux appels à manifester ont été lancés ce dimanche dans les quartiers de Bastille, de Saint-Lazare et du Châtelet, où vous vous trouvez, Rémi Brancato.
Ils ont gonflé des ballons jaunes, évidemment, accrochés aux poteaux autour de la Fontaine des Innocents, pour fêter un anniversaire bien triste, estime Benoît, travailleur indépendant.
On aurait préféré qu'il n'y ait jamais d'anniversaire. C'est une fête triste, parce que le fait que des gens se mobilisent un an et ne soient toujours pas entendus, c'est le signe qu'il y a une démocratie qui fonctionne relativement mal dans le pays.
Et ce dimanche, ils sont encore quelques centaines à s'être levés pour une deuxième journée de mobilisation. Alfred, employé parisien, se dit écœuré des manifestations d'hier. Il était place d'Italie.
Quand le départ de la manif a été interdit, il y a des gens qui sont partis en manif sauvage quand même. Tout a été fait dès le début par la préfecture pour que ça se passe le plus mal possible.
Alors ce matin, ces Gilets jaunes participent à un rassemblement déclaré, lui aussi, statique, jusqu'à ce soir, parmi eux, Jérôme Rodriguez, figure du mouvement qui se réjouit d'un regain de mobilisation.
Ça fait plaisir parce que ça fait des semaines et des semaines que je le répète. Ne vous inquiétez pas, ils sont bien là. Les citoyens en colère, qui portent un gilet jaune ou pas, sont bien présents. La braise couve. Il suffirait encore d'une giclée d'essence de la part de notre gouvernement pour que le reste de la population se réveille.
Et avec les hôpitaux, les universités et la réforme des retraites pour les gilets jaunes, les motifs de contestation ne manqueront pas dans les semaines à venir.
155 personnes placées en garde à vue au total dans la capitale. C'est le bilan ce matin sur toute la France. Le ministère de l'Intérieur fait état de 254 interpellations. Le ministre Christophe Castaner veut faire le distinguo entre le mouvement d'origine qui exprime, dit-il, une colère profonde et les voyous qui viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, 28 000 personnes ont manifesté hier en France. Elles étaient 39 000 selon les Gilets jaunes. C'était il y a un an. Comme le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs dizaines de militants de l'organisation mondialiste ATTAC se rassemblaient devant l'Apple Store qui venait d'ouvrir au public sur les Champs-Élysées. Le début d'une longue série de manifestations visant les boutiques du géant américain partout en France pour dénoncer ses pratiques d'évasion fiscale. L'évasion fiscale en général, Apple n'en étant que le symbole le plus visible, comme l'expliquait alors sur France Inter la porte-parole d'ATTAC, Aurélie Trouvé.
Il faut bien voir que l'évasion fiscale, c'est à peu près 80 milliards d'euros en France par an qui manquent à l'État. c'est-à-dire à peu près la hauteur du déficit public. C'est énorme. Et en s'en prenant à Apple, nous dénonçons en fait cette situation et nous nous en prenons du coup à la première évadée fiscale du monde.
Et alors, quelle est justement la part d'Apple dans ces 80 milliards? Est-ce que vous l'avez quantifié?
Alors, ce qu'on a quantifié, c'est ce que Apple a extorqué aux citoyens européens. Sur 15 ans, on a calculé que c'était à peu près 16 milliards d'euros. Et rien qu'en France, 3 milliards d'euros sur 15 ans. On considère qu'on a un gouvernement qui ne fait pas son travail, qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'applique pas une vraie politique contre l'évasion fiscale. Que pourrait faire l'État français? Un, augmenter les moyens dans la justice, dans la police, dans l'administration fiscale, pour qu'il y ait réellement les moyens de poursuivre les fraudeurs, les exilés fiscaux. Deux, imposer une taxe sur les multinationales à hauteur de leurs activités réelles dans chaque pays. Et pour ça, il faut qu'elles soient transparentes sur leurs activités dans chaque pays pour qu'elles puissent payer leur juste part d'impôts, ce qu'elles ne font pas pour l'instant.
Et quelques mois plus tard, en juillet dernier, la France, faute d'un accord au niveau européen, a donc mis unilatéralement en œuvre une taxe GAFA qui porte sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique. Invité de ce droit de suite, Pascal Saint-Amand, directeur fiscal de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Bonjour à vous.
Bonjour.
Donc la France a mis en œuvre sa propre taxe numérique, hein, en attendant qu'une taxe internationale puisse être décidée. C'est ce sur quoi vous travaillez à l'OCDE?
Oui, absolument. On a un mandat du G20, donc des plus grandes économies du monde, pour trouver une solution globale, parce que le problème, il est global. Et si on ne change pas les règles internationales, c'est des conventions fiscales, c'est des règles de prix de transfert, des choses un peu techniques, mais qui en réalité aboutissent à une solution politique et qu'aujourd'hui, ces grandes multinationales, notamment numériques, ne payent pas assez dans les pays où elles sont implantées, où elles font du business, où elles ont des clients. Et donc, on essaye de changer ces règles avec les États-Unis, la Chine et tous les pays du monde. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a 135 pays dans la discussion. Et donc, les pays unilatéralement, comme la France ou bientôt l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Canada et quelques autres, ont pris des mesures unilatérales.
Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est viser le profit de ces grandes entreprises plutôt que le chiffre d'affaires.
Alors absolument, ce qu'il faut faire intelligemment, c'est regarder le profit mondial d'Apple ou de Google ou de Louis Vuitton aussi, et de dire bien combien gagnent ces entreprises et répartir ce profit entre les différents pays. Alors mettre une partie du profit là où l'entreprise a son siège, là où elle fait sa recherche, son développement, mais donner aussi une partie de ce profit, de ce super profit, aux pays où il y a les consommateurs. Et c'est encore plus vrai pour des entreprises numériques qui n'ont pas de présence physique. Vous voyez Netflix, ils n'ont aucun employé en France aujourd'hui. La France ne peut rien prendre du profit que fait Netflix. Et ce sont ces règles-là qu'on essaie de changer. Et une fois de plus, en l'absence de ces règles-là, il y a certains pays comme la France, et la France avait pris le leadership là-dessus, disent mais comme on ne peut pas taxer une partie du profit, on va prendre une taxe sur le chiffre d'affaires. Alors c'est pas le mieux qu'on puisse faire, parce que les taxes sur le chiffre d'affaires, elles taxent aussi les entreprises qui font pas de profit ou qui font de tout petits profits, indifféremment, c'est 3% du chiffre d'affaires, c'est pas optimal, mais ça fait un peu bouger les choses et ça accélère les négociations à l'OCDE, négociations qui vont assez vite et on espère avoir une solution politique qui fasse l'objet d'un accord avec les États-Unis, la Chine, les Européens, les Africains et l'ensemble des pays d'ici le mois de juin.
Sachant que la France s'alignera sur cette taxe internationale.
La France est clairement en soutien d'une solution multilatérale. Ça a été dit par le président de la République et le ministre des Finances français, mais aussi américain, à Biarritz, hein, vous vous en souvenez, à la fin du mois d'août, au moment du G7, les Américains se plaignaient de la taxe GAFA ou la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises numériques en France, et la France a répliqué, le jour où on a une solution globale que nous soutenons, et alors on démantèlera nos taxes parce qu'on pourra récupérer une partie du profit de ces entreprises.
Alors en attendant, la taxe française, c'est quoi? C'est 400 millions d'euros pour cette année, 650 l'année prochaine. Est-ce qu'elle pénalise nos entreprises, et notamment nos start-up en croissance, comme elles le disent elles-mêmes?
Alors les entreprises sont pas très heureuses, y compris les entreprises françaises de cette taxe, même si politiquement, on voit bien la nécessité que certains pays avaient de passer de telles taxes. Vous venez de parler des Gilets jaunes, je crois que c'est une revendication des peuples dans plein de pays que quelque chose se passe. Alors c'est vrai que c'est pas l'optimum parce que quand vous taxez le chiffre d'affaires, ben souvent la taxe elle est passée sur les consommateurs finaux, donc c'est pas tellement Google qui la paye, c'est plutôt le restaurateur du coin qui fait sa publicité sur Google qui la paye. Mais une fois de plus, ça fait bouger les choses et c'est un mouvement qui a contribué à accélérer la négociation au niveau mondial.
Et en attendant, une taxe européenne, ce serait déjà un progrès.
Ah ben, la taxe européenne, hélas, elle a fait l'objet d'une tentative, mais d'un échec au niveau européen, parce que les pays européens sont divisés. Et il faut reconnaître que la bonne solution, c'est une solution globale. Donc, si l'Europe bouge toute seule sans les États-Unis, c'est pas optimal. Donc, il vaut bien mieux avoir les États-Unis. Et le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que l'administration Trump, qui n'est pas très multilatéraliste, c'est le moins qu'on puisse dire, sur ce sujet fiscal, qui a fait l'objet de progrès énormes dans le cadre du G20, il n'y a plus de secrets bancaires dans le monde, on a mis fin aux paradis fiscaux les plus agressifs, mais il reste une dernière étape, et pour cette dernière étape, les États-Unis sont en soutien, sont engagés, c'est compliqué, mais ils sont engagés, donc on a une lueur d'espoir, on verra si on est capable de produire cette solution d'ici le mois de juin prochain.
Pascal Saint-Amand, directeur fiscal de l'OCDE, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On parlait de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il salue ce matin l'immense succès populaire de la privatisation de la FDJ. À ce jour, selon lui, il l'a dit tout à l'heure sur BFM, il y aurait déjà pour 1 milliard d'euros de souscription de la part des particuliers.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
À l'étranger, le retour de Terminator au Sri Lanka, c'est ainsi qu'est surnommé le nouveau président Gotabaya Rajapakse, petit frère du président qui avait gouverné le pays d'une main de fer jusqu'en 2015. 7 mois après les attentats djihadistes de Pâques qui avaient fait 269 morts, le Sri Lanka a donc choisi de renouer avec la fratrie très populaire au sein de la majorité ethnique singhalaise. Sébastien Farcy nous appelle de New Delhi dans l'Inde voisine.
Réjouissons-nous de manière apaisée et souvenons-nous que tous les Sri Lankais doivent être inclus dans cette nouvelle aventure. C'est avec ce message de rassemblement que Gotabaya Rajapakse vient d'annoncer sa victoire quelques minutes après que son rival Sajid Premadasa a concédé sa défaite. Ces mots sont importants car le clan de Rajapakse a laissé un souvenir de division et de répression des minorités. Mahinda Rajapakse, le frère de Gotabaya, a régné d'une main de fer sur l'île pendant 10 ans. Il a mis fin à la guerre contre la rébellion tamoul dans un bain de sang qui aurait coûté la vie à plus de 10 000 civils tamouls et les membres de cette minorités ont été arrêtés de manière arbitraire, accusés de collaborer avec les rebelles. Gotabaya Rajapakse, lui, était secrétaire d'État à la Défense à cette époque et il est accusé de torture devant un tribunal américain. Il devra donc prouver maintenant, en tant que président, qu'il peut, comme il le dit aujourd'hui, respecter le droit des principales minorités du pays qui ont voté pour son adversaire. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
À Hong Kong, nouveau week-end de manifestations, notamment sur les campus où des étudiants se sont retranchés et où certains ont été vus tirant des flèches en direction des policiers. La police a d'ailleurs diffusé les images d'un de ces hommes blessé au mollet. En rugby, un week-end de Coupe d'Europe avec hier la belle prestation de Clermont face aux Anglais des Harlequins, battu 53-21, au contraire de La Rochelle qui a été surpris à domicile par Exeter, 31-12. Dans cette Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions en foot. L'affiche, ce sera tout à l'heure le Racing 92 face aux Saracens. Les Saracens qui sont champions d'Europe en titre, régulièrement présentés comme la meilleure équipe du monde avec en son sein de nombreux internationaux anglais et sud-africains. Mais c'est aussi paradoxalement une équipe dont l'existence est aujourd'hui menacée, Fanny Lechevestrier.
6 millions d'euros d'amende et une pénalité de 35 points au classement dans le championnat anglais. Voilà ce qui remet en cause l'existence de la meilleure équipe européenne depuis 5 ans. La faute des Saracens, le non-respect du plafond de la masse salariale. En effet, pour tenter d'éviter de trop gros écarts de niveau, les clubs anglais ne doivent pas dépasser les 8 millions d'euros. Mais jamais une équipe n'avait encore été aussi lourdement sanctionnée. Une décision historique saluée jusqu'en France par le manager de Lyon, Pierre Mignoni.
Ils ont apparemment triché sur le salary cap, ils sont sanctionnés. Moi, je trouve assez logiquement, quoi. Je trouve que c'est bien de sanctionner au nombre de points sportivement et financièrement.
Et certains espèrent que cette sanction exemplaire inspire aussi le top 14 qui a également un plafond salarial. Il est fixé à 11 millions d'euros. Mais jusqu'à maintenant, trois clubs, Montpellier, Toulon et le Racing 92 ont été sanctionnés, mais seulement financièrement, avec sursis ou dans des proportions bien moins importantes. Côté Racing, le manager Laurent Travers se garde d'ailleurs bien de tout commentaire à l'encontre de son adversaire du jour.
Voilà, il y a des gens qui ont décidé. Ce qui est sûr, c'est que je me mets à leur place aussi, c'est pas facile.
Avec un champion d'Europe qui jouera cet après-midi sans ses stars préservées pour le championnat et sans doute aussi éviter d'avoir à donner leur avis sur le sujet.
Coup d'envoi du match à 16h15. L'autre affiche en sport, c'est ce soir le dernier match des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro. Des Bleus déjà qualifiés, mais qui jouent leur première place du groupe en Albanie. Trois nouveaux pays ont rejoint la liste des qualifiés ce matin. L'Allemagne, l'Autriche, quatre nouveaux pays. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Croatie. Enfin, un dernier mot à propos des intempéries. Pour terminer, on a entendu la météo tout à l'heure. Un nouvel épisode neigeux est annoncé ce dimanche dans la vallée du Rhône. 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité à cause de la neige dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Ils ne devraient pas être réalimentés pour certains avant demain au mieux. La ligne TER Valence-Grenoble ne reprendra que mercredi.